Les apôtres disent au Seigneur, « Donne-nous une foi plus grande. » Le Seigneur répond, « Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pouvez dire à cet arbre, « Arrache tes racines d'ici et va te planter dans la mer, et il vous obéira. » Supposons ceci. L'un de vous a un serviteur. Il laboure les champs ou il garde les troupeaux. Quand le serviteur revient des champs, vous ne lui dites pas « Va vite manger ». Au contraire, vous lui dites « Prépare mon repas ». Ensuite, change de vêtements. Viens me servir pendant que je mange et que je bois. Après, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Vous ne remerciez pas votre serviteur parce qu'il a fait ce que vous aviez commandé. C'est la même chose pour vous maintenant. Quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, dites « Nous sommes des serviteurs ordinaires, inutiles. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. » Présenter ainsi le programme de celui qui non seulement veut faire des choses, mais qui en plus a la prétention de vouloir bien les faire pour Dieu, ce programme est plutôt déroutant. Devenir un serviteur inutile, ordinaire, dit ma version de la Bible, courber le dos, le courber encore, plier devant les exigences d'un maître pour se faire écraser finalement et disparaître dans l'inutilité et la culpabilité, parce que on n'a jamais fait tout ce qu'on devrait faire, alors il y a toujours une culpabilité qui reste. Être serviteur, esclave, c'est le même mot dans la langue originale, dans le grec. On pourrait dire « passe encore », mais on pourrait au moins s'attendre à être reconnu en tant que tel et à être au moins remercié, ça ne coûte pas cher. La dureté de ce maître a de quoi étonner celui qui a plutôt l'habitude d'entendre Jésus dire « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Ou bien « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. » Ou encore, dans ce même évangile de Luc, juste avant, au chapitre 12, verset 37, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, le maître mettra son vêtement de travail, il fera asseoir ses serviteurs pour le repas, il passera pour les servir à manger. Et puis il y a cette histoire du fils prodigue, où le fils prodigue est invité à ne pas être serviteur, mais fils. Et pourtant, au cours de son histoire, l'Église a beaucoup plus souvent retenu l'image du serviteur que celui du fils, de la fille ou de l'ami pour évoquer la relation de l'être humain à son Dieu. Être serviteur, serviteur inutile d'un Dieu à l'exigence infinie, semble être, si on n'avait que ce texte-là et si on oubliait de lire ce qui est un peu avant et un peu après, semble être la condition du croyant. Et j'ai été étonné en lisant des commentaires bibliques sur ce passage-là de voir combien de commentateurs tombaient dans ce panneau, en oubliant de lire ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Ça me paraît étonnant. L'idée a permis de construire de nombreux sermons moralisateurs invitant à l'humilité celui ou celle qui sait que de toute façon, son œuvre n'est rien. Tu peux faire tout ce que tu veux de bien, ça ne sert à rien. Et afin de donner un cadre à ce service, l'Église, dans son histoire, là aussi, a institué des pratiques religieuses, des actions sociales et humanitaires, qui sont devenues autant de moyens officiels de servir Dieu, de devenir de bons serviteurs. Mais bien entendu, comme on ne le sert jamais assez, et que même si on y arrivait, cela reviendrait au même, puisque son exigence est réputée être infinie, la culpabilité est au rendez-vous à la place de la satisfaction du devoir accompli. C'est mathématique, ça fonctionne comme ça, un être humain. Alors que le service soit motivé par le désir de payer une dette, on se sent toujours redevable vis-à-vis de Dieu, ou par la volonté de séduire Dieu, de se mettre du bon côté, il n'atteint que le désespoir. Il n'y a pas de service libérateur. Et je vous rappelle qu'en grec, le mot utilisé, c'est le mot d'esclave. Il ne peut pas y avoir d'esclavage libérateur. C'est complètement une aberration de parler d'esclavage libérateur. Et il n'y a pas de service, même le plus beau des services que vous pouvez avoir dans l'Église n'est pas libérateur. Même pas, je crois, d'être pasteur dans le Pas des Cévennes. C'est pas, c'est agréable, hein, mais si on le vit comme un service, ça n'est pas libérateur. Un commentateur de la Bible, pensant avoir trouvé la clé d'interprétation de ce passage, qui embête beaucoup quand même, parce qu'il semble dire exactement le contraire de ce qui est avant et de ce qui est après. C'est très embêtant. Ce commentateur dit, pour être utile, il faut faire au-delà de ce qui est commandé. Je pense, lui, il a dû oublier de lire la suite de l'Évangile selon Luc. Et je fais allusion, par exemple, à l'épisode du jeune homme riche, qui se trouve dans le chapitre suivant, où lui dit, j'ai tout fait. Et Jésus lui trouve un truc qu'il n'a encore pas fait, toujours pour en rajouter, pour lui montrer qu'il ne peut pas. Mais dans cette lecture, pourtant courante, il y a une erreur à la base. Une erreur qui est de lire cette histoire comme une invitation à devenir ce serviteur inutile d'un Dieu jamais content. Nulle part il est dit qu'il faut qu'on devienne ce serviteur. Nos conceptions de Dieu, notre histoire, notre humanité tout simplement, nous font souvent adopter cette grille de lecture alors que l'Évangile prend justement le contre-pied de toutes nos approches de Dieu et de la religion. Et quelques éléments du texte, pourtant, devraient nous mettre la puce à l'oreille. Cette petite réflexion de Jésus sur le serviteur inutile est située, comme je l'ai déjà dit, après deux autres allusions au serviteur. La parabole du fils prodigue, le fils perdu et retrouvé, juste avant, où le père refuse à son fils la place de serviteur, alors que ce dernier ne pouvait même pas imaginer qu'il puisse le pardonner et qu'il ose tout juste lui demander cette place-là. Et cet épisode où Jésus se présente comme le serviteur de ses disciples et n'hésite pas à affirmer que le plus grand est celui qui sert, et non pas celui qui est servi. Il n'y a rien dans tous ces autres passages d'un appel à devenir serviteur, et encore plus serviteur inutile. Au contraire, toutes les autres fois que Luc emploie le mot de serviteur, mais les autres évangélistes c'est pareil, hein, c'est pour en annoncer la libération de la condition d'esclavage, de la condition de serviteur. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il nous faut interpréter ce texte. Sinon, on va lui faire dire le contraire de tout ce qu'il veut dire. Et c'est dans une série de discours représentant autant de réponses aux attaques des hommes religieux de son temps, ceux du parti des pharisiens en particulier, que Jésus raconte toutes ces paraboles, et entre autres la parabole du fils perdu et retrouvé. C'est aussi à leur encontre qu'il prononce la petite histoire du serviteur inutile, un peu comme s'il voulait leur dire « Vous avez le choix. Soit vous pouvez, comme je viens de le montrer dans la parabole du fils prodigue, hein, vous pouvez vous situer comme des fils et des filles qui reviennent vers leur père, sachant qu'il leur redonnera toujours leur place de fils et de filles. Soit vous continuez à vous positionner comme des serviteurs, mais alors comprenez bien que cela ne vous conduira nulle part. C'est l'impasse. Croyez-vous que Dieu ait besoin de votre service? Vous ne pouvez même pas en attendre un petit merci. Le salut par les œuvres mène nulle part. En fait, c'est ce qu'il dit là. Il n'est pas interdit, autrement dit, il dit aux pharisiens, il n'est pas interdit de se comporter en serviteur, si vous voulez. Mais il faut savoir que ce n'est pas ce que Dieu demande et qu'ainsi, on se prive de la joie des enfants ou des amis. Jean parle plutôt d'amis comme l'opposé du serviteur et Luc plutôt des enfants, mais c'est la même démarche, la libération de la condition de serviteur et d'esclave. Donc, finalement, ce texte, loin d'être une leçon de morale, dont le but serait d'inviter le peuple à être de bons serviteurs, courbant toujours le dos, en sachant que leur œuvre est dépourvue de valeur, la petite histoire nous invite à relever la tête et à nous comporter en fils et filles de Dieu, et non pas en esclaves. Jésus invite les religieux de son temps, ces pharisiens, qui se perdaient en efforts de service, en voulant appliquer toutes les lois qu'ils avaient rajoutées, même à celles de la Bible, espérant ainsi réussir à devenir de bons serviteurs. Il les invite à abandonner cette voie pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu, des fils et des filles. Et c'est le message que nous avons à donner aujourd'hui à ce monde où tellement de gens vont se jeter dans les bras de mouvements religieux ou sectaires qui reposent des lois, des règles, des choses à faire. Ce qui est en question ici, c'est aussi et surtout l'image qu'on se fait de Dieu. Image avec laquelle on vit, que ce soit par le rejet ou l'acceptation docile. Qu'on rejette cette image d'un Dieu maître qui veut garder ses serviteurs dans l'esclavage, ou qu'on l'accepte, c'est la même image. La tendance à se percevoir comme serviteur, esclave, est la réponse logique à l'image d'un Dieu qui serait un maître tyrannique. Dans un autre texte de l'Évangile, on constate que, dans l'Évangile selon Jean, que l'idée que les gens religieux se faisaient de Dieu était tellement aliénante que Jésus l'assimile au diable. Il dit « Non, mais quand vous parlez de Dieu, en fait, c'est du diable que vous parlez, c'est le contraire. » Leur conception de Dieu les maintenait dans la position de serviteurs, d'esclaves. Jésus, lui, il est venu révéler un Dieu Père. Il est venu changer cette image que les hommes se construisent si facilement d'un Dieu qui exige des services et qui tient des comptes. Alors, il ne faut cependant pas caricaturer les positions. Il existe peu de croyants qui se situent totalement en serviteur ou en esclave, je crois, même dans les églises un peu légalistes, et certainement pas plus qui sont totalement et vraiment libres. Nous sommes tous, généralement, en marche de l'un vers l'autre. Nous sommes généralement tous un peu des serviteurs et des esclaves en train de comprendre qu'ils sont des enfants de Dieu. On est tous sur ce chemin, avec des avancées, des reculs. La vie de foi est un cheminement entre ces deux pôles. Et celui qui a compris que son service n'est pas utile à Dieu témoigne par là qu'il est déjà en marche. Ça ne veut pas dire que le service n'est pas utile aux autres. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand on fait quelque chose de bien dans la vie, ça fait du bien aux autres, ça peut être utile à des tas de choses, mais ce n'est pas ça qui fait notre salut. Petit à petit, alors, quand on a compris ça, la libération pourra faire son œuvre. Mais le pire serait de croire que notre service est utile, que notre service peut nous sauver d'une certaine manière. Là, on serait encore rivé, attaché à la condition de serviteur et maintenu en esclavage. Cette petite histoire, donc, du serviteur inutile, puisqu'on l'appelle comme ça, peut fonctionner de deux manières différentes. Mais Luther disait que tous les textes de l'Évangile pouvaient fonctionner de deux manières différentes. Elle peut soit conduire au désespoir, celui qui veut absolument être un bon serviteur, un bon esclave, ou bien elle peut être une bonne nouvelle extraordinaire annonçant que nous sommes destinés à vivre en fils et fille de Dieu dans la liberté promise par le Christ. Et c'est à nous de choisir vers où nous voulons cheminer. Bon cheminement dans cette voie. Amen.